Chapitre 3. Les plateaux de la balance oscillent. Maggie revient ce soir-là des fonds rouges à la maison, l'esprit préoccupé d'un combat intérieur. Vous avez vu clairement, par son entrevue avec Philippe, quelle en est la cause. Elle aperçoit soudainement une brèche à ce mur de roche qui l'enserrait dans l'étroite vallée d'humiliation où elle n'avait d'autre avenir que le ciel éloigné et insondable, et quelques-uns des plaisirs terrestres qui ont hanté son imagination ne sont plus hors de sa portée. Elle pourrait avoir des livres, de la conversation, de l'affection. Elle pourrait apprendre des nouvelles de ce monde dont son esprit se sent exilé. Ce serait aussi montrer de la bonté envers Philippe, tellement à plaindre et décidément si peu heureux. Et peut-être est-ce une occasion qui lui est offerte de rendre son esprit plus digne de ses aspirations. Peut-être le dévouement le plus noble et le plus complet exige-t-il une intelligence plus cultivée. Pourquoi vivrait-il toujours dans cet emprisonnement résigné? Ce serait une chose si bonne, si peu blâmable, qu'il y eût de l'amitié entre elle et Philippe. Les motifs qui s'y opposent sont si déraisonnables, si peu chrétiens. Mais le sévère et monotone avertissement revient lui répéter qu'elle perdrait la simplicité et la pureté de sa vie en acceptant un secret, et qu'en abandonnant la règle du renoncement, elle se jetterait dans la dépendance de désirs séduisants toujours plus insatiables. Elle espéra avoir trouvé la force d'obéir à cette voie directrice lorsque la semaine suivante, elle osa retourner un soir au fond rouge. Mais tout en étant résolue à dire un adieu plein d'affection à Philippe, combien elle savourait d'avance le plaisir d'une promenade paisible dans ces lieux aimés, loin de tout ce qui froissait son cœur. Combien elle songeait au regard d'affectueuse admiration qui la recevrait, au sentiment de camaraderie que des souvenirs d'enfance donneraient à une conversation plus sage et plus mûrie, à la certitude de l'intérêt avec lequel Philippe écouterait tout ce qu'elle aurait à dire et dont nulle autre personne ne s'inquiétait. C'était une de ces heures bienheureuses dont il serait difficile de s'éloigner, sachant qu'il ne s'en représenterait point d'autre semblable. Cependant, quand le moment vint, elle dit courageusement tout ce qu'elle avait promis de dire. Ses traits exprimaient la fermeté tout autant que la tristesse. « Philippe, j'ai pris une détermination. Il est convenable que nous renoncions l'un à l'autre pour tout, excepté pour ce qui tient au souvenir. Je ne pourrai pas vous voir sans en faire un mystère. Attendez, je sais que vous me direz que ce sont les mauvaises passions des autres qui rendent le secret nécessaire. Mais le secret est un mal, quelle qu'en soit la cause. Je sens que cela le serait pour moi, pour nous deux. Et puis, si ces entrevues étaient découvertes, nous ne pourrions en attendre que du malheur, une colère terrible. Et alors, il n'en faudrait pas moins nous séparer, et ce n'en serait que plus pénible, après nous être habitués à nous voir. » Le visage de Philippe s'était enflammé, et il eut une expression momentanée d'agitation, comme voulant résister violemment à cette décision. Mais il se contint, et dit avec un calme forcé, « Eh bien, Maggie, si nous devons nous séparer, tâchons de l'oublier pendant une demi-heure. Parlons ensemble quelques moments, pour la dernière fois. » Il prit sa main, et Maggie ne vit aucune raison de la retirer. Cette tranquillité qu'il affectait la rendait plus certaine de lui avoir causé une grande douleur, et elle désirait lui montrer combien elle le faisait involontairement. Ils marchèrent en silence, la main dans la main. « Asseyons-nous, dit Philippe, à l'endroit où nous nous sommes assis l'autre fois. Regardez comme les églantiers ont jonché le terrain de leurs pétales roses. » Ils s'assirent au pied du frêne pleureur. « J'ai commencé votre portrait au milieu des pins d'Écosse, Maggie. » Ainsi, laissez-moi étudier un peu votre visage pendant que vous êtes là, puisque je ne dois plus vous revoir. S'il vous plaît, tournez un peu la tête de ce côté. » Ce fut dit d'une voix suppliante, et il eût été bien dur de la part de Maggie de refuser. Elle tourna son visage plein et brillant, orné de sa riche couronne de cheveux noirs, et comme une divinité satisfaite d'être adorée, elle abaissa les yeux sur la pâle figure qui la contemplait. « Je dois donc poser pour mon second portrait, » dit-elle en souriant. « Sera-t-il plus grand que l'autre ?»« Oh oui, beaucoup plus grand. C'est une peinture à l'huile. Vous aurez l'air d'une amadriade de grande stature, brune, forte et noble, venant de sortir d'un des pins quand les branches jettent leurs ombres du soir sur le gazon. Vous avez l'air de vous occuper de peinture plus que de toute autre chose à présent, Philippe.
Peut-être, dit Philippe assez tristement, mais je pense à trop de choses. Je sème toutes sortes de semences, et je ne retire une grande moisson d'aucune. Je suis affligé du désir que j'ai d'entreprendre mille choses et de ne pouvoir réussir en rien. J'ai le goût de la peinture et de la musique. J'aime la littérature classique et celle du Moyen Âge, et je cultive celle de nos jours. Je voltige partout et ne m'élève jamais. Mais certes, c'est un bonheur d'avoir autant de goût, de jouir de tant de belles choses, quand on les a à sa portée, dit Maggie méditativement. Cela m'a toujours semblé une pauvre espèce d'habileté que de n'avoir qu'un seul talent, comme un pigeon voyageur.
Ce serait un bonheur pour moi d'avoir beaucoup de goûts différents si j'étais comme les autres hommes, dit Philippe amèrement. Je pourrais acquérir du pouvoir et de la distinction à l'aide d'une simple médiocrité, comme ils le font. Au moins pourrais-je obtenir ces satisfactions modestes, suffisantes pour contenter les hommes qui ne possèdent pas les grandes. Peut-être alors me plairais-je dans la société de St. Ogg's. Mais rien ne pourrait me faire trouver la vie digne d'être achetée par quelque douleur de ma part, qu'une faculté qui pût m'élever au-dessus du niveau morbide de l'existence provinciale. Oui, une autre chose, une passion le pourrait aussi.
Maggie n'entendit pas ces derniers mots. Elle luttait contre l'impression des paroles de Philippe, qui faisait de nouveau vibrer son propre mécontentement comme auparavant.
« Je comprends ce que vous voulez dire, quoique je sache bien moins de choses que vous. Je me disais que je ne pourrais jamais supporter la vie si elle devait être tous les jours la même qu'à présent, et si je devais faire toujours des choses sans valeur et ne pouvoir jamais rien connaître de plus grand. Mais, cher Philippe, je crois que nous ne sommes que des enfants, dont un être plus sage prend soin. N'est-il pas mieux de nous résigner entièrement, n'importe ce qu'il nous refuse ? J'ai trouvé une grande paix en cela pendant ces deux ou trois dernières années, et même du bonheur à soumettre ma propre volonté.
Oui, Maggie, dit Philippe avec force, et vous vous êtes renfermée dans un étroit fanatisme illusoire qui n'est qu'une manière d'échapper à la douleur, en réduisant à la torpeur toutes les plus hautes facultés de votre nature. Jouir de la paix n'est pas la résignation. La résignation est l'acceptation volontaire d'une douleur qui n'est pas allégée, qu'on n'espère pas qu'il le soit jamais. L'engourdissement des facultés n'est pas la résignation, et c'est de la stupeur que de rester dans l'ignorance, de fermer les yeux à tout ce qui pourrait nous initier à la vie de nos compagnons d'existence. Je ne suis pas résigné. Je ne suis pas sûr que ma vie soit assez longue pour acquérir une fois cette vertu. Vous-même ne l'êtes pas. Vous essayez seulement de vous paralyser. Les lèvres de Maggie tremblaient. Elle sentait qu'il y avait quelque vérité dans ce que disait Philippe, mais que cependant en faire l'application immédiate à sa propre conduite n'était pas juste. Cette double impression correspondait au double point de vue de Philippe. Il croyait sérieusement ce qu'il disait, mais il le disait avec véhémence parce que c'était un argument contre la résolution qui s'opposait à ses désirs. Mais le visage de Maggie, rendu plus enfantin par les larmes qui se faisaient jour, le toucha d'un sentiment plus tendre et moins égoïste. Il prit sa main et dit avec douceur « Ne nous occupons pas de telles choses dans cette courte demi-heure, Maggie. Jouissons du plaisir d'être ensemble. Nous serons amis malgré la séparation. Nous penserons toujours l'un à l'autre. Je serai heureux de vivre tant que vous vivrez, parce que j'espérerai toujours qu'il peut venir un temps où je pourrai... où vous me permettrez de vous aider en quelque manière.
Quel cher, quel bon frère vous auriez été, Philippe, dit Maggie en souriant au milieu de ses larmes.
Je crois que vous auriez fait assez de cas de moi, que vous auriez été assez heureux d'être aimé de moi pour que cela eût pu même me satisfaire. Vous auriez su être tolérant et me tout pardonner. Voilà ce que j'ai si ardemment désiré chez Tom. Je n'ai jamais été satisfaite de peu en quoi que ce fût. C'est pourquoi il vaut mieux pour moi essayer de me passer entièrement de tout bonheur terrestre. Je n'ai jamais trouvé que j'eusse assez de musique. Je désirais un plus grand nombre d'instruments jouant ensemble. Je désirais des voix plus parfaites et plus sonores.
Chantez-vous quelquefois maintenant, Philippe ? Ajouta-t-elle brusquement, comme si elle avait oublié ce qui s'était passé auparavant.
« Oui, dit-il, presque tous les jours. Ma voix a peu d'étendue, comme toutes mes facultés. Oh, chantez-moi quelque chose, seulement un air. Je puis l'écouter avant de partir, quelque chose de ce que vous chantiez à Lorton. Le samedi après-midi, quand nous avions le salon à nous seuls, et que je mettais mon tablier par-dessus ma tête pour mieux vous écouter. Je me le rappelle, dit Philippe, et Maggie cacha son visage dans ses mains, tandis qu'il chantait sotto voce, l'amour se joue dans ses yeux. Il ajouta ensuite, c'était cela, n'est-ce pas? Oh non, je ne veux plus rester, dit Maggie en se levant subitement. Ce souvenir ne me poursuivra que trop. Marchons, Philippe, il faut que je retourne à la maison. Elle s'éloigna, en sorte qu'il fut obligé de se lever et de la suivre. « Maggie, dit-il d'un ton de reproche, ne persistez pas dans cette privation volontaire et insensée. Cela me désespère de vous voir comprimer et rétrécir de cette manière votre belle nature. Vous étiez si pleine de vie quand vous étiez enfant. Je croyais que vous deviendriez une femme brillante. Tout en vous était esprit et vive imagination. Et votre visage en est encore tout illuminé. Quand vous ne le voilez pas de votre triste quiétude. Pourquoi me parlez-vous si durement, Philippe? Parce que je prévois que cela ne finira pas bien. Vous ne pourrez jamais continuer à vous torturer ainsi vous-même. La force m'en sera donnée, dit Maggie en tremblant. Non, Maggie, non. Personne ne reçoit la force de faire ce qui est contre nature. C'est une vraie lâcheté que de chercher la sûreté dans la résignation. Aucun caractère ne devient fort ainsi. Vous serez jeté quelques jours dans le monde, et alors chaque satisfaction raisonnable de votre nature, que vous vous refusez maintenant, viendra vous assaillir comme un appétit sauvage. » Maggie tressaillit et s'arrêta en regardant Philippe avec une expression alarmée. « Philippe, comment osez-vous m'ébranler ainsi? Vous êtes un tentateur. » « Non, je ne le suis pas. Mais l'amour donne la clairvoyance, Maggie. » Et la clairvoyance fait souvent prévoir. Écoutez-moi, laissez-moi vous fournir des livres. Laissez-moi vous voir quelquefois. Être votre ami et votre directeur, comme vous le disiez à Lorton. Il y a moins de mal à ce que vous me voyiez qu'à commettre ce lent suicide. Maggie se sentit incapable de parler. Elle secoua la tête et marcha en silence jusqu'à ce qu'ils fussent à l'extrémité des pins d'Écosse. Et elle mit sa main dans la sienne en signe d'adieu. Me bannissez-vous donc de ce lieu pour toujours, Maggie? Certainement j'y viendrai et je m'y promènerai quelquefois. Si je vous y rencontre par hasard, il n'y a point là de secret. C'est au moment où notre résolution semble sur le point de devenir irrévocable, où les fatales portes de fer vont se fermer sur nous, que commence l'épreuve. Alors, après des heures de sage raisonnement et de ferme conviction, nous nous attachons à tous les sophismes qui annulent nos longues luttes et nous apportent une défaite que nous préférons à la victoire. Maggie sentit son cœur bondir à ce subterfuge de Philippe, et son visage laissa apercevoir ce léger mouvement de satisfaction qui accompagne une délivrance. Il le vit, et ils se séparèrent en silence. Philippe comprenait trop leurs situations respectives pour ne pas ressentir quelque crainte d'être intervenu présomptueusement, peut-être par égoïsme, dans ce que devait prononcer la conscience de Maggie. Mais non, il se répétait que son but n'était pas égoïste. Il avait peu d'espoir que Maggie pût jamais lui rendre le vif sentiment qu'il éprouvait pour elle, et il serait mieux pour l'avenir de cette jeune fille, lorsque ces mesquines divisions de famille auraient cessé de mettre obstacle à sa liberté, et qu'elle eût eu quelque occasion de s'instruire, par un échange d'idées, avec un esprit au-dessus du niveau de ceux qui l'entouraient. Si nous comptons sur l'avenir, en jugeant les conséquences de nos actions, pour leur trouver les résultats qui puissent les justifier, soit en adoptant l'aide d'une providence qui les permet ou d'une philosophie qui les explique, nous pouvons trouver que le désir que nous avons de préférer faire ce qui nous est le plus agréable a sa raison d'être. Ce fut de cette manière que Philippe s'expliqua ses subtils efforts pour surmonter l'éloignement de Maggie à l'égard d'un secret qu'elle considérait comme une duplicité, et comme pouvant causer de nouvelles douleurs à ceux qui avaient les premiers droits sur elle. Mais la passion était assez forte en lui pour le rendre indifférent à tout besoin de se justifier. Son désir de voir Maggie et de devenir un élément de sa vie tenait un peu de cette sauvage impulsion à s'emparer d'un bonheur qui se présente, impulsion naturelle à un être dont la vie intellectuelle et physique était soumise à la douleur. Il n'avait pas sa part entière du bien commun à tous les hommes. Il ne pouvait même pas être considéré comme insignifiant, mais il devait faire naître la pitié, être mis en dehors de ce qui était naturel pour les autres. Même aux yeux de Maggie, il était une exception, car l'idée qu'il pût être son amant ne lui était jamais entrée dans l'esprit. Ne jugez pas trop sévèrement Philippe. Les gens laids ou d'un physique disgracié ont grand besoin de vertus exceptionnelles, sans lesquelles ils seraient probablement bien malheureux. Mais la théorie que des vertus remarquables doivent être une conséquence directe des désavantages personnels est peut-être une théorie exagérée. On parle beaucoup des tentations de la beauté, mais je m'imagine qu'elles sont avec celles de la laideur dans le même rapport que les excès d'une fête où des plaisirs variés s'offrent à l'œil et au goût le sont avec les sentiments qui assaillent le désespoir de la faim. La tour du Golin n'est-elle pas comme le type de la plus grande épreuve pour tout ce qu'il y a d'humain en nous? Le caractère de Philippe n'avait jamais été adouci par l'amour maternel qui découle sur nous avec d'autant plus d'abondance que nous en avons un plus pressant besoin, qui s'attache à nous d'autant plus tendrement que nous avons moins de chances d'être vainqueurs dans le combat de la vie. Et sa reconnaissance pour l'affection et l'indulgence de son père à son égard était troublée par la noble perception qu'il avait des défauts de ce père. Philippe, mis en dehors de toute vie pratique comme il l'avait été, et dominé par sa nature d'une sensibilité à moitié féminine, avait un peu de cette répulsion intolérante de la femme pour l'amour du gain et la recherche délibérée des plaisirs sensuels. Et ce lien naturel, si puissant dans la vie, l'amour filial, devenait souvent pour lui une cause de souffrance. Peut-être y a-t-il inévitablement quelque chose de maladif dans un être humain qui se trouve en quelque sorte en dehors des conditions favorables communes à la vie, jusqu'à ce que les forces saines aient eu le temps de triompher, et elles ont eu rarement le temps de le faire à 22 ans. Cette force existait en Philippe avec une grande puissance, mais le soleil lui-même paraît faible au travers du brouillard matinal.